Le grand témoin.
Avec le même plaisir, pour le même devoir, je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 18 mai 2014 pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Avec moi dans ce studio, Kankwinda Mbaya Justin, il est professeur d'université et docteur en économie. Il est aussi fondateur et directeur général de l'Institut congolais de recherche en développement et études stratégiques, ICREDES. Professeur Kankwinda Justin a été aussi représentant résident du programme des Nations Unies pour le développement dans plusieurs pays africains. Professeur, bonjour.
Bonjour.
C'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Alors, nous avons profité de votre passage en RDC, parce que vous vivez au Canada, c'est ça?
Oui.
Alors, pour vous inviter dans cette émission, comment vous vous portez d'abord?
Je pense que je me porte bien.
Ça vous fait quoi lorsque vous revenez au pays?
Une grande joie de retrouver mon pays, de retrouver ma patrie, de retrouver mes compatriotes, mes amis, mais bien sûr ma famille aussi.
Alors vous vivez au Canada, c'est un choix personnel ou il y a des contraintes qui vous ont poussé à vous installer dans ce pays-là?
Contraintes, non, je n'ai pas de contraintes en tant que telle. Je vis entre trois pays en réalité. Je réside au Canada, je vis aussi aux États-Unis, je vis dans mon pays aussi puisque j'ai une adresse ici.
C'est pas fatigant de vivre entre trois pays?
Oui, mais c'est aussi intéressant.
En quoi c'est intéressant?
Mais parce que cela me donne des richesses que j'apporte à mon pays, des richesses au niveau de, pas au niveau physique, au niveau matériel, mais des richesses en tant que leçon d'expérience, en tant que exemple qui peuvent être bénéfiques à mon pays, donc dont je suis porteur, que je peux communiquer à mes compatriotes, que je peux communiquer à d'autres structures de mon pays. Donc c'est un enrichissement et pour le pays. En fait, je peux dire que c'est un investissement pour mon pays. Mon pays investit en moi pour
en tirer plus. Et vous investissez pour le pays. Voilà. Alors, professeur, avec vous, dans cette émission, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent partout dans le pays, même à travers le monde. Vous allez partager avec nous votre expérience professionnelle, axée beaucoup plus sur le développement.
Oui, beaucoup.
Professeur, vous êtes né un certain 20 juin 1945. Mmh. Où?
Bien sûr, dans mon village. Je ne suis pas un citadin, moi. Je suis né dans mon village, au Kasaï.
Et plus c'est là où vous avez grandi? Vous avez passé votre enfance, une grande partie de votre enfance?
J'ai passé une grande partie de mon enfance là-bas. J'ai fait mon école primaire dans mon pays, dans mon village ou dans mon territoire. Je suis du territoire de Nganajika, au Kasaï oriental. De là, je suis allé au secondaire, toujours au Kasaï, mais dans plusieurs écoles. J'ai fait 2 ans ici à cause des problèmes politiques de la période des années 60. J'ai fait 2 ans ici, 1 an là-bas, 3 ans là-bas, jusqu'à terminer mes études secondaires, comme nous appelions les humanités, au collège de Mujimaï. Puis je suis venu à l'université Lovanium, nous l'appelions encore Lovanium en ce moment-là.
L'université de Kinshasa, aujourd'hui.
Aujourd'hui, l'université de Kinshasa.
Et vous avez grandi dans quelles conditions?
Je conscience d'un bon enfant du village, bien couvert par sa famille, couvert du point de vue matériel, couvert du point de vue amour, affection. Non, j'ai vraiment pas du tout souffert, ni physiquement, ni mentalement, ni moralement, au cours de mes études. Non, pas du tout.
Si on vous demandait aujourd'hui, vous préférez vivre la vie du village ou celle de la ville, laquelle vous choisirez?
J'aurais bien voulu faire les choses de la ville, mais basées au village.
Faire les choses de la ville, mais basées au village.
Oui. Parce que le village a quelque chose de très sain du point de vue des relations sociales, familiales ou autres. On vit dans la nature au village. On respire l'air pur du village. Il n'y a pas de véhicule qui vous empeste l'air. Il n'y a pas de... Non, et je peux même vous témoigner. Je le disais il y a quelques jours. Quand je suis au village, même ma tension est tout à fait normale. Je suis relax, je suis détendu, je dors très bien.
Il n'y a pas de stress au village?
Non, vraiment pas. Je ne vis pas
cela. On mange aussi bio au village.
Et puis on mange bio, voilà, exactement. Il n'y a pas de surgelé là-bas, qu'on achète ici. Non, pas du tout.
Et quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir qui m'a le plus marqué pendant mon enfance, c'est...
Oui, il y en a beaucoup sûrement, mais un qui vous a le plus marqué.
Ça dépend du côté positif, du côté négatif. Mais je vais vous donner un souvenir qui est tout à fait personnel. Un jour, pour la toute première fois de ma vie, et depuis je ne l'ai plus vu, bien sûr, j'ai vu mon père pleurer. C'est des choses rares. C'était lors de la mort de mon petit frère. Et c'est moi qui suis venu lui demander d'être courageux. J'avais 6 ans. Donc ça m'a marqué. Mais c'était un ami, il m'amenait partout où il sortait, on causait, donc ça c'est de très bons souvenirs. La relation amicale avec mes parents.
Vous étiez quel genre d'enfant? Turbulent, timide?
Plutôt sage. J'ai jamais eu de problème, ni avec mes parents, ni avec mes amis ou mes frères et sœurs. Donc j'étais très consacré à mes études, très consacré à aider les parents. Mon père était un planteur, à aider les parents sur les champs, etc. Non, vraiment un garçon régulier.
Professeur Kankwinda, vous êtes marié, père de 9 enfants, une grande famille, je vois.
Oui. Vraiment, j'en suis fier, content et fier.
Alors, vous êtes docteur en économie de l'université du Zaïre.
Oui, parce qu'après la licence, j'ai continué, je suis allé préparer mes études en France, ou mon doctorat en France, puis je suis venu, mais je l'ai défendu. En ce moment-là, il y avait une seule université qui s'appelait l'UNASA, l'Université nationale du Zaïre, campus de Kinshasa.
Vous avez fait aussi des études de développement économique à Dakar, au Sénégal.
C'est exact. Entre Lovanium et Grenoble, j'ai fait la maîtrise à l'Institut africain de développement économique et de planification, qui est un institut des Nations Unies, mais placé à Dakar. J'ai étudié et travaillé là-bas avant de revenir au pays et de continuer pour faire la thèse.
Pourquoi vous avez choisi de faire l'économie?
Ah, encore un accident. Ça va vous surprendre. Quand je suis arrivé à Lovanium, je ne connaissais pas très bien quelles études. Moi, je voulais faire la médecine. On me dit, ah non, il faut faire la propédeutique. J'ai dit, ah non. Parce que j'avais enseigné 1 an. J'ai dit, si je dois encore faire la propédeutique, ceux qui étaient de ma promotion seront déjà en deuxième. Non, je ne peux pas faire ça. J'ai dit, ok, je vais faire les ingénieurs. On me dit, ah non, là aussi, il faut faire la propédeutique. J'ai dit, ah non. Alors, le directeur des instituts dit, mais monsieur Kankwinda, qu'est-ce que vous voulez? J'ai écrit sciences économiques et financières. Ça n'existait pas. Il y avait ou sciences économiques ou sciences commerciales et financières. Et le directeur des inscriptions a supprimé financières. Donc, je suis resté avec sciences économiques. Voilà le hasard qui m'a amené à faire les sciences.
Mais vous êtes adapté, et même si vous n'avez pas choisi de faire l'économie, après, ça marchait quand même.
Mais quelquefois, du moins, c'était pas une main invisible qui a guidé ce monsieur-là à supprimer ça pour me laisser en économie, parce que j'en suis content et fier.
Alors, professeur, c'est quoi votre plat préféré?
J'aime beaucoup les légumes verts. Quand je dis légumes, parce qu'en Europe, on va dire que les pommes de terre sont des légumes, des haricots, non, les légumes verts, c'est que soit le pondou, soit le bitegulunga, etc. Je suis un grand mangeur de légumes.
Alors, on a contacté quelqu'un, professeur, qui nous a parlé de vous.
Ah bon?
Quelqu'un qui vous connaît depuis très très longtemps.
Il n'a pas dit... Qu'est-ce qu'il a dit?
Alors, on va le suivre et puis on revient juste après pour la suite de notre entretien.
D'accord, merci Deli.
Allô, bonjour.
Bonjour.
À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît?
Jean-Pierre Kabeya Nyonga.
Alors, Jean-Pierre Kabeya Nyonga, il est qui?
Bon, Jean-Pierre Kabeya-Nyonga a un profil très vaste là. Pour le moment, je suis consultant pour le compte de la Banque mondiale, dans un projet Banque mondiale qu'on appelle projet de développement des pôles de croissance.
Monsieur Jean-Pierre Kabeya,
oui.
Nous sommes dans ce studio avec le professeur Justin Kankwinda que vous connaissez. Dites-nous comment vous vous êtes connu.
Disons que nos relations remontent à notre petite enfance. Et disons, au moment où on terminait les études primaires pour entrer à l'école normale, et alors on s'est retrouvé avec lui. Bon, c'est depuis lors que nous sommes restés en contact et on a collaboré, travaillé ensemble, surtout dans le domaine des études, des recherches, des publications.
Alors, vous avez grandi ensemble, donc vous vous connaissez très bien. Dites-nous, il est quel genre de personne, le professeur Justin Kankwinda?
Ça, c'est un homme extrêmement doué. Et un homme qui, à ma connaissance, depuis que je le connais, n'a jamais été second. D'ailleurs, la preuve, à l'époque, quand on devait terminer, on devait faire ce qu'on appelait les examens interdiocésains. Aujourd'hui, on l'appellerait interdiocésain, mais à l'époque, c'était intervicariat. Bon, il est sorti premier, et nous entrons à l'école normale. Au lieu de faire ensemble la même année avec lui, on l'a fait enjambé. Et quand il enjambe comme ça, il retrouve ce qui était une année avant lui, du début, que ce soit les interrogations, que ce soit les examens, du début à la fin, il les a toujours battus, il était toujours premier. C'est un homme extrêmement intelligent, et comme on dirait, intelligent jusqu'au bout des ongles.
Alors socialement, comment il vit avec les gens?
Écoute, ça, d'abord, un premier caractère, un homme intégrateur. C'est-à-dire, en fait, vous voyez que ce soit les gens de sa promotion ou de son âge qui vivent avec lui, et vous voyez même les gens plus âgés qui viennent le consulter. Alors, que ce soit du côté des hommes ou des femmes, je ne vois pas quelqu'un qui a des plaintes à son endroit. Mais c'est un homme comme tous les autres, il a aussi ses défauts. Mais pour moi, en tout cas, bon, je le trouve encore extraordinaire, un homme très intégrateur. En fait, si on le voit dans ses relations, les relations qu'il a développées jusqu'à ce jour, mais c'est avec les gens de toutes les races, de tous les sexes, et puis, bon, disons que c'était l'intégrateur.
Alors, on retient que c'est un intégrateur, comme vous l'avez dit vous-même, c'est un homme, il a aussi ses défauts. Et parmi ses défauts, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il change?
Mais écoute, comme je disais aussi que chacun a ses défauts, c'est vrai. Et je ne me trouverais pas vraiment de reproches à lui faire comme tel. Mais de temps en temps, on est un peu déçu parce que on veut en faire un leader, lui recule. On veut en faire un meneur d'homme, lui recule. La modestie, peut-être c'est une qualité, mais je crois que il le sait lui-même, hein, et que il a une vocation à conduire les hommes. Mais je vais vous donner un exemple concret.
Allez-y.
Je n'en tenais pas rigueur pour ce qui concerne les années. Moi, de ce côté-là, la chronologie, c'est vraiment mon point faible. Professeur Diallo est ministre de l'enseignement supérieur universitaire. À la recherche scientifique où il travaillait, ou quand il travaillait, il y avait tout le temps de bordel, de changements, tout ça, etc. Diallo décide, il dit, écoutez, donnez-moi vous-même, communiquez-moi vous-même le nom de celui que vous voulez qu'il vous conduise, qu'il vous gère. Et dans la salle, je me rappelle à l'époque, il venait à peine de présenter sa thèse de doctorat. Kankwenda. Et il est nommé directeur général de l'Institut de recherche scientifique. Mais je ne dis pas qu'il avait refusé. Vous savez, quand on occupe un tel poste, d'emblée, tous ceux qui voulaient l'occuper aussi, et qui enviaient, ils entrent dans une sorte d'opposition où ils vous combattent. Écoute, il a très vite cédé au combat alors que il a été plébiscité et choisi. Nous aurions voulu que le front qui était ouvert, qu'on continue à combattre. Donc, c'est un homme intelligent, très brillant, mais...
Il n'aime pas l'affrontement.
Oui, c'est-à-dire, bon, un peu, il va arranger un peu trop les relations. Il n'aime pas tellement bousculer.
Alors, Jean-Pierre Kabea, c'est la coutume dans cette émission. On va vous demander de lui dédier une chanson. Laquelle, pensez-vous, lui ferait plaisir?
Écoutez, je connais mon homme, c'est un homme complet, que ce soit la musique traditionnelle, et derrière, même s'il se met à danser, mais c'est formidable, c'est un homme très doué. Mais la chanson que je veux lui dire, dans le groupe d'amis, le groupe auquel il appartient, on appelle ça notre hymne. En fait, c'est pour nous les hommes. Bon, il y a une contrepartie, c'est toujours Rochereau avec Myriam. Pour la chanson que nous aimons bien et que nous chantons souvent, que nous dansons, c'est « La beauté d'une femme », voilà.
Ah d'accord, ok. C'est Mbili Abel qui a interprété
voilà,
ça.
Voilà, c'est juste, voilà. C'est un homme très varié et il aime bien, que ce soit Pachanga, que ce soit Rumba, que ce soit même le Tchoukouna, la danse des Baluba. C'était lui, quand il se met à danser, ça, mais ça... C'est formidable, il est très fort.
Alors Jean-Pierre Kabé, on va vous libérer. Quel est le petit message que vous voulez lui passer en ce moment?
Oui, en ce moment, le message que je voudrais lui passer, c'est celui-ci. Nous sommes maintenant au tournant de la vie. Nous convergeons vers la sortie et qu'il faut laisser, bon, comme on dit, Sissabidimbo, donc il faut qu'il laisse, il en a déjà laissé, il en a déjà créé, mais qu'il réponde un peu à l'attente de la jeunesse d'aujourd'hui. Pour ce qu'on voudrait le voir comme leader, voilà. J'aimerais bien qu'il joue ce rôle-là de leader pour comme porte-flambeau pour la jeunesse.
Merci Jean-Pierre Kabea, c'était un plaisir de vous avoir dans cette émission. Alors on vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir. Alors professeur Kankwenda, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ces témoignages sur vous?
C'est très touchant, je connais bien Jean-Pierre. C'est très touchant, c'est quelqu'un de très sincère, de très intègre aussi. Je sais que ce qu'il dit est tout à fait correct. Je peux probablement nuancer sur une chose. Quand j'étais délégué général de la recherche, j'étais effectivement plébiscité par la salle. Le combat, je l'ai mené parce qu'il n'y a aucun, à l'insu de ce scientifique, personne ne vous dira qu'il connaît la meilleure période de la ville Saint-Situ que celle que moi j'ai tenue quand j'étais de la recherche. Oui, au moins en ce moment-là, il y avait de la recherche. Mais ce qu'il dit, c'est que je ne me suis pas battu pour le rester. Je ne pouvais pas parce que, et je ne l'ai pas fait, parce que la manigance politique et de l'argent Parce que je combattais, j'étais dans un monde où l'argent circulait et je ne voulais pas rentrer dans ce jeu-là. Mm-hmm. Je crois que c'est un reproche, mais je crois que c'est aussi une manière de me féliciter.
D'accord, alors il vous a dédié la chanson La beauté d'une femme. En plus, il nous a dit que vous êtes un grand danseur. Hein?
Oui, je danse du tout. Je danse, oui, oui. Je ne sais pas comment il voit. On vient, je danse beaucoup, oui. J'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup la musique de notre pays. Bah, la musique en général, je danse.
Alors, on va écouter juste un extrait hein, de la chanson La beauté d'une femme avant de parler de votre expérience professionnelle. Merci. J'espère que la chanson vous fera plaisir.
Certainement, certainement. Je la connais.
Lokito ya moto, okoyoka na musika, okomiti ya baide ya soba, ebongi otala na miso. Nalala bongi te, akotinda tinda maloba, na bazaki ya kali mwana ya nzambe, loka sali mwana ya butu lokolaka. Kitisi elongi asinga kanga na mosika lelo moninga elombe ya mwasi mase apamba kufa ntango yonde moleki nzela tina nini naswana na yo kufa ntango mobali asana maboko nanga bafami bakangelanga ye.
Je vous ai pas entendu chanter, professeur, alors que vous aimez la chanson.
Je l'aime beaucoup. Et je vois quand elle est sortie, Myriam Bell qui l'a joué. C'était avec Rochero.
Oui,
je
avec Rochero.
Je l'aime beaucoup. Non, j'aime beaucoup la danse. Mmh. C'est une très bonne rumba. C'est du classique.
Uh-huh. Mais généralement, ce sont les femmes qui aiment cette chanson. Mais ça m'étonne que...
Bon, les femmes aiment la chanson de par les paroles. Parce que il y en a, une bonne fraction de nos compatriotes se retrouvent dans ça. Donc ça, c'est ceux qui elles se disent, parce qu'elles vivent peut-être cette situation-là, etc. Mais moi, j'aime la chanson beaucoup plus de part de la musicalité de la chose, de part de la mélodie, l'instrumentation, la voix même de
Myriam Bell,
etc. C'est une mélodie vraiment dansante, c'est pour ça. Bon, créativité en parole, c'est peut-être pas ce qui me frappe dans cette chanson.
Alors merci à Guy Manzangu de l'autre côté de la baie vitrée qui nous a fait plaisir en nous balançant cette chanson de Miliabel. J'espère qu'elle a fait plaisir à tous les auditeurs qui nous suivent en ce moment à Goma, au Nord Kivu et même à Ngandajika dans le Kasaï oriental.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ces acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Moi, vous pouvez découvrir aujourd'hui Kankwinda Mbaya Justa. Il est professeur d'université, docteur en économie. Il est aussi fondateur et directeur général de l'Institut congolais des recherches en développement et études stratégiques, ICREDES. Professeur, on va parler de votre long parcours ou longue expérience professionnelle. Je sais que vous avez beaucoup plus travaillé dans le domaine économique et des développements.
Oui, c'est exact. Oui.
Et donc, juste après vos études, vous vous êtes lancé directement dans le monde professionnel?
Oui, de deux manières. D'une part, dans l'enseignement. Je continue à enseigner au supérieur. Bon, évidemment, j'ai enseigné le primaire, j'ai enseigné le secondaire. Mais là, après mon diplôme, je suis directement entré dans l'enseignement supérieur. J'ai enseigné à ce qui est devenu IFASIC aujourd'hui, qui s'appelait l'ISTI.
Et à... Vous avez enseigné l'économie.
À l'UNI. Oui. Pas l'économie en tant que telle, ça veut dire plusieurs branches dans l'économie, oui, mais c'était les cours d'économie. Parce qu'à l'ISTI, c'est pas seulement connaître un certain nombre de questions économiques, mais aussi comment tenir une rubrique économique hein, quand on est journaliste. Hein. Donc, j'enseignais ce genre de choses et puis j'enseignais également à l'Université de l'économie.
De Kinshasa.
De Kinshasa, oui, c'est exact. En dehors des enseignements, j'avais toujours gardé mon pied dans la recherche. C'est comme ça que, d'ailleurs, quand j'ai soutenu ma thèse, je n'étais pas encore DG, c'est de l'Institut de recherche scientifique, je le suis devenu après. Donc, j'étais, du point de vue d'un formateur, d'un professeur, j'avais mes deux pieds, et dans l'enseignement et dans la recherche, puisque la recherche nourrit l'enseignement et l'enseignement nourrit aussi la recherche.
Ça se complète.
Ça se complète, et ça, je dis même, c'est l'essence d'une même réalité. Si vous êtes professeur, vous ne pouvez pas ne pas être chercheur, par définition. Vous n'êtes pas professeur que pour enseigner ce que on vous a enseigné. Vous devez ouvrir les horizons du savoir. Et pour ouvrir les horizons du savoir et vous affirmer comme connaisseur, vous devez aussi produire la connaissance. Et produire la connaissance, c'est faire la recherche.
Alors, professeur, parlez-nous un peu de l'université au Congo entre hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, en tant que professeur,
j'ai pas de très bonnes nouvelles, Kelly. L'université que j'ai connue, où il y avait le savoir, la production du savoir, la diffusion du savoir, le partage du savoir, l'archivage du savoir, ce n'est plus cette université-là. Le niveau de compétence a baissé.
C'est là pour induire à quoi, selon vous?
J'arrive. Le niveau de compétence a baissé. La corruption est entrée dans le dernier carré qui restait encore. La politisation des choses, y compris des diplômes, les fraudes, tout cela affectait, on dirait que le mauvais virus est entré dans le dernier carré qui pouvait garder et la pureté du savoir et la simplicité de la connaissance. Je décevrai un certain nombre de collègues, mais je dénonce cette déperdition dans les compétences, cette déperdition dans la commercialisation du savoir, le fait que ce n'est plus un mérite d'avoir un diplôme. Du point de vue de l'organisation matérielle, de l'exemple, c'est les conditions de travail aussi, on beaucoup chuté dans nos universités. Les conditions d'enseignement, les salles d'enseignement, les moindres conditions matérielles.
À votre époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants dans
non.
les auditoires, mais maintenant on a
oui, mais cela veut dire aussi
étudiants
que...
dans un auditoire.
Peu importe, cela veut dire qu'il y a une demande sociale de l'éducation. Et où est l'offre sociale de l'éducation? Pourquoi la société, la nation, l'État, le gouvernement n'a pas su répondre à cette demande qui augmente? L'université ne forme plus de scientifiques. Elle ne forme pas de professionnels. Le produit qui sort n'est ni scientifique, ni professionnel.
À qui la faute, professeur?
Mais justement, aux responsables de l'éducation, aux responsables de la gouvernance de la nation, mais aussi à la société privée. Quel est le rôle de l'éducation, et en particulier l'éducation universitaire, Kelly? Lorsqu'un pays sait où il va, il se définit le type de ressources naturelles, de ressources humaines dont il a besoin pour construire ce pays-là, pour construire le Congo d'aujourd'hui et de demain. De quelles ressources naturelles avons-nous besoin? Dès que c'est défini, c'est la mission qui est confiée à l'éducation, et en particulier à l'éducation universitaire. Mais cela n'existe pas dans ce pays.
Et qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Les infrastructures qui reçoivent tous ces étudiants, il faudra recycler les professeurs?
Non, il y a des actions à mener dans une... Parce que si je les cite, c'est comme des pièces isolées. Il faut les comprendre comme une stratégie d'ensemble, qui comprend... Bien sûr, l'accompagnement matériel pour que l'étudiant, les conditions de production du savoir et de transmission du savoir se fassent dans les conditions un minimum convenables. Deux, les programmes eux-mêmes d'enseignement. Il faut les revoir et les restructurer. Troisièmement, il faut que l'enseignement se fasse en fonction des besoins, des compétences en ressources humaines dont on a besoin pour construire le Congo d'aujourd'hui et de demain. Donc, qu'on produise et les scientifiques, et les vrais professionnels.
Alors, est-ce que vous continuez à donner cours à l'université de Kinshasa?
Non, je ne donne plus cours. Dès que j'ai quitté le pays...
Mais à l'extérieur
oui,
du pays...
Oui, j'ai animé des séminaires, mais je ne donne plus cours. Non, je voudrais me consacrer à d'autres choses que l'enseignement. Bon, la recherche, par exemple. Hein, la recherche opérationnelle et surtout la recherche stratégique, ça, c'est des choses qui m'intéressent. La société congolaise, je voudrais me consacrer au devenir de ce pays, puisque je parle beaucoup du devenir, je parle beaucoup de la vision du futur. Donc, ça veut dire qu'il faut que je me consacre également à la construction de ce pays, et sur le plan scientifique et sur d'autres plans, dans la vie sociale, économique, mais pourquoi pas même politique.
En parlant de politique, vous avez occupé quelques fonctions politiques dans ce pays, hein? C'était sous le président Mobutu.
Oui, avec M. Kengo comme premier, on l'appelait commissaire d'État. Commissaire d'État.
Vous étiez vice-ministre à l'économie nationale.
Oui, à l'économie nationale et l'industrie. J'étais au cabinet du plan, etc., oui.
Vous avez aussi une longue expérience dans le système des Nations Unies, professeur Kankwinda.
Oui.
Vous y êtes entré comment?
Bien, vous savez, notre pays n'a pas une politique de placer ses cadres, ici ou là, ça n'existe pas. Quand j'étais au plan, quand je travaillais au plan, j'étais en rapport avec les Nations Unies, comme consultant ou comme répondant. Hein. J'étais le point focal pour le dialogue avec le PNUD. Ensuite, quand je suis passé à l'économie nationale et l'industrie, mes amis du PNUD me prenaient souvent comme consultant ici et là. Et un jour, quand un poste s'est ouvert, le poste d'économiste principal au PNUD, ils ont envoyé mon curriculum vitae sans m'informer, le représentant résident qui était là. Vous savez qui c'est? Alan Doss.
Ah bon?
Alan Doss, alors Alan prend mon curriculum vitae, l'envoie, il était représentant ici, l'envoie. New York lui dit, aïe, donne-nous ce gars-là. Alors après, il m'invite, il me dit, bon, écoute, Justin, j'ai fait quelque chose sans ton autorisation, mais j'espère que tu ne vas pas être déçu. On cherche des gens et c'est vraiment ton profil. Est-ce que tu... J'ai déjà envoyé le CV, ils ont répondu, ça y est. Est-ce que tu es prêt? On te paye le billet, tu vas faire l'interview. Je suis entré, j'ai accepté, je suis allé aux Nations Unies. J'ai arrêté mes cours à l'université pour une semaine. Je suis allé là-bas. J'ai fait des interviews, différentes interviews. Et puis après, je suis rentré. Dans la semaine qui venait, on me disait, non, celui-là, on le prend. Et on m'a recruté comme économiste principal. Alors, j'ai fait le reste de la carrière.
Vous avez passé 18 ans dans le système?
Dans le système, oui. J'étais économiste principal au Niger, du PNUD au Niger. J'étais chef de la division du programme régional et de l'analyse des politiques en Afrique à New York, basé à New York. Après, j'ai été envoyé au Burundi. Après le Burundi, j'ai été envoyé au Burkina Faso. Après le Burkina Faso, j'ai été envoyé au Nigeria. Donc, j'étais représentant résident et coordonnateur résident des Nations Unies dans ces pays-là.
Ça veut dire que vous connaissez beaucoup des pays africains. Vous avez vécu les réalités. Vous connaissez bien les réalités de ces pays.
C'est exact, oui.
Sur le plan de développement.
Exactement. Le plan de développement, les aspects politiques aussi, parce que il m'est arrivé, quand vous êtes dans un pays comme responsable de la coopération au développement, et surtout en tant que coordonnateur des Nations Unies pour les activités opérationnelles de développement, vous dialoguez avec le gouvernement aussi, y compris sur certains aspects politiques. Je discutais beaucoup avec des chefs d'État africains sur les aspects politiques de leur pays. Il y en avait qui étaient mes amis ou qui me consultaient aussi. Donc, j'ai eu à ce titre-là, mais aussi en tant que J'ai parcouru beaucoup l'Afrique aussi comme conférencier, comme participant aux séminaires, aux ateliers. Donc, je suis assez familier à l'Afrique. Après ma sortie des Nations Unies, j'ai beaucoup travaillé avec le NEPAD, le mécanisme africain de développement par les pairs, où j'allais dans les différents pays pour évaluer leur même mode de gouvernance sur les différents aspects. Donc, je peux prétendre que j'ai une large connaissance sur l'Afrique.
Et il faut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui sont allés aussi loin dans cet univers international.
Hein. Non, pas beaucoup, parce que déjà quand j'étais devenu le dernier grade administratif aux Nations Unies, c'est D2, directeur 2. Il y a des échelons. Après, ça sont des postes politiques. Hein. Je l'ai été pendant que j'étais en poste au Burkina, puis je suis allé au Nigeria, etc. Mais après, j'étais nommé aussi l'adjoint au représentant spécial des Nations Unies chargé de la conférence internationale sur les Grands Lacs, basée à Nairobi. Il n'y a pas beaucoup de Congolais qui sont arrivés à ce niveau-là.
Cela est dû à quoi?
Mais un peu, d'abord,
parce que les Congolais qui ne veulent pas foncer, qui ne veulent pas pousser, aller plus loin dans le système des Nations Unies, ou c'est le pays aussi qui doit présenter des candidats?
Les deux. D'abord parce que le Congo, pendant longtemps, les Congolais n'allaient pas à l'étranger pour travailler. C'est beaucoup plus les pays de l'Afrique de l'Ouest et les pays du Sahélien qui envoyaient les volontaires des Nations Unies. Deuxièmement, il n'y avait pas une politique systématique de notre pays. Un, de placer ces cadres, d'ambitionner certaines positions et dire nous avons tel cadre que nous pouvons mettre à telle position. Il faut savoir cette politique-là. De comprendre qu'en plaçant vos citoyens dans telle ou telle position au niveau régional, au niveau surtout international avec les Nations Unies, il y a un plus. Un plus pas seulement parce que on peut faire sur le plan des contributions aux Nations Unies, on tient aussi compte du fait du nombre de cadres que vous avez là, et les Nations Unies, nous payons les impôts aux Nations Unies. Ces impôts sont en réalité ce que les Nations Unies devraient remettre au pays du fait d'utiliser ses compétences. Mais normalement, on fait une sorte de compensation, on dit, bon, nous, on vous doit tel montant comme notre contribution aux Nations Unies, et vous nous devez autant, on fait une compensation, on voit ce qu'on a. Mais il y avait des pays qui savaient utiliser déjà ça en ce moment-là. Troisième aspect, il faut aussi avoir un pays ou un leadership du pays qui a une voix qui porte.
Professeur Kankwenda, vous êtes fondateur et directeur général de l'Institut Congolais des Recherches en Développement et Études Stratégiques, ICREDES. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer cet Institut Congolais des Recherches en Développement?
Deux choses. Premièrement, je m'étais rendu compte depuis 1974, je crois, je revenais de Dakar, que le débat était mort dans ce pays. Parce que je venais de vivre une expérience terrible, terrible dans le sens que qui m'a secoué à Dakar, du temps du président Senghor. Quelqu'un écrit, et je le rapporte dans un de mes livres, quelqu'un écrit pour critiquer la pensée du président Senghor. Dans le journal Le Soleil, le journal officiel du gouvernement, il publie un article, un jeune philosophe. Le bureau, la cellule d'études du bureau politique du parti de Senghor lui répond deux jours après pour lui dire qu'il n'avait pas bien lu ou qu'il n'avait pas tout lu, etc. Et le gars répond, le jeune professeur. Il dit, non, vous êtes à côté du problème que j'ai soulevé. J'ai lu suffisamment. Si vous avez d'autres livres, vous voulez me les offrir, tant mieux. Mais la pensée du président Senghor, à partir du moment où elle est rendue publique, elle est devenue neutre. Donc, elle fait l'objet du débat, voici ce que je pense. Or, je me disais, sous le régime Mobutu triomphant, qui pouvait faire ça chez nous? Le lendemain, quelques zélés autour de Mobutu allaient venir le ramasser pour le mettre en tôle. J'avais ça. Il faut qu'il y ait un débat chez nous. On ne peut pas être dirigé sans qu'il y ait un débat sur la réalité. Je rentre, je cherchais l'occasion. Et j'ai fondé le laboratoire d'analyse sociale de Kinshasa. 8 ans plus tard, en 83, je revenais d'un voyage aux États-Unis, où j'avais visité les institutions comme Booking Institutions et autres. J'ai dit, tiens, il y a des think tanks privés ici, que les gouvernements consultent, que d'autres institutions consultent. Et chez nous, il n'y a même pas ça. Et avec des amis, j'ai fondé le laboratoire dans ce qu'on appelle le LAS. Nous publions une revue qui s'appelle Analyse sociale. Sous le mobutisme triomphant, nous, on a pu lancer une cellule de réflexion, un centre de réflexion.
Bon, vous n'étiez pas inquiété par rapport à vos réflexions?
Au début, j'ai publié un premier article dans le premier numéro où je critiquais l'action du Fonds monétaire international dans ce pays, donc l'action du gouvernement dans ce pays. C'est des membres du gouvernement qui sont venus me voir, qui me demandent, comment tu fais? J'ai dit, on cotise, etc. Ah, mais les réflexions sont magnifiques, on a vu le premier numéro, le deuxième, et j'ai reçu deux chèques à des moments différents, des membres du gouvernement pour, non, il faut continuer.
Pour financer le travail.
Le prochain numéro, etc. Donc, j'ai eu cette expérience. Et le LASK, les gens commençaient à commander la revue de l'extérieur, l'analyse sociale, les universités américaines, européennes, etc. Donc, on devenait un nom. Un jour, le président Mobutu, dans un meeting à Kinkole, il dit, je sais ce que les intellectuels congolais pensent des politiques du fonds monétaire, etc. Il m'a pas cité le nom. La semaine qui suivait, ou les deux, dans les trois semaines qui suivaient, j'apprenais que j'étais nommé au gouvernement. Je suis allé voir le premier commissaire d'État pour lui dire, d'accord, je vais obéir, le président m'a nommé. Mais dites au président que je lui ai amené...
Est-ce que c'était pas ça que vous recherchiez derrière toutes ces
réflexions? Non, je suis pas un demandeur d'emploi par ce genre de choses-là. Je sais que pas mal de compatriotes font ça. Il va crier qu'il est dans l'opposition, il va crier qu'il est ceci pour se faire recruter. Non, c'est pas mon genre. Pas du tout. J'étais surpris. D'ailleurs, j'ai commencé à chercher comment est-ce que je suis nommé. Qui m'a fait nommer? C'est en ce moment-là qu'on m'a rapporté le discours
de Kinkole.
Quand j'ai causé avec le premier commissaire d'État Kengo. Dites au président. Je suis directeur du LASK et directeur de la revue Analyse Sociale. Je tiens à le rester. C'est comme ça, même quand j'étais aux Nations Unies, le représentant résident, le coordinateur résident, moi je publiais et les gens disaient, mais comment il peut publier, critiquer aussi les Nations Unies comme s'il s'y est là. Je le faisais quoi? Pour demander un emploi, j'étais déjà dedans. Donc, alors c'est comme ça que dans ce cheminement, en rentrant au pays après ma retraite près des Nations Unies, j'ai pris la retraite et je me suis dit, non, de quoi je vais m'occuper, je rentre chez nous. Je fais pas des cours pour comme mon homme ici et là, mais je peux, avec ma tête, vivre. Alors, faisons.
C'est comme ça que vous avez créé.
Nous avons créé l'Institut Congolais de Recherche en Développement et Études Stratégiques, ICREDES, qui a été installé ici il y a 3 ans, en 2011.
Professeur, vous êtes auteur de plusieurs études et publications sur les problèmes de développement au Congo et en Afrique. Est-ce que c'est compte tenu de votre expérience au sein du PNUD qui vous a poussé à faire ces publications sur l'économie et le développement en Afrique?
Non, pas forcément.
Ou réalités que vous avez trouvées dans les pays africains?
Oui, la connaissance des réalités, je pense qu'il faut que nous produisions le savoir, que nous produisions la connaissance. Et publier, c'est capitaliser un savoir. Et quand vous capitalisez un savoir, il n'est plus que pour vous communiquer avec les autres. Et j'ai toujours aimé ce genre de choses. Il faut capitaliser sur le savoir de notre pays, de notre continent, et produire de nouvelles connaissances qui peuvent être diffusées, qui peuvent être transmises aux autres générations ou même à sa propre génération. J'avais déjà le goût de la recherche avant, puisque j'ai commencé à l'ONRD, moi. J'ai commencé à l'ONRD, puis à l'Institut de Recherche Scientifique. Donc j'étais déjà dans le monde de la recherche et je m'intéressais aux problèmes du développement de mon pays.
Alors depuis les indépendances jusqu'à ce jour, est-ce qu'on peut dire que l'Afrique est en train de se développer? Les pays africains fournissent quand même des efforts pour leur développement?
Oui et non. Oui, parce que dans une certaine mesure, il y a eu le niveau de revenu par tête qui a augmenté entre 60 et maintenant. Il y a le niveau d'éducation ou de scolarisation, d'alphabétisation qui a également fait des progrès sur le plan social. Il y a des améliorations en matière de santé. Ça, c'est de manière générale. Un certain début d'industrialisation, si je peux ainsi dire, mais il y a des pays par rapport à ce que l'Afrique pouvait être si elle avait bien redéfini sa vision de son développement, sa trajectoire, donc sa stratégie pour aller vers ce développement-là, bien mobiliser les ressources humaines et autres pour cet objectif-là, on aurait fait beaucoup mieux.
Qu'est-ce qu'on peut dire de la RDC aujourd'hui, la RDC 1960 à 2014? Est-ce que le pays est en train de se développer? Est-ce que c'est le statu quo ou le pays est en train de stagner encore?
Mais je crois je viens du PNUD. Hein. Le PNUD a tranché cette question-là. Le pays lui-même a tranché cette question-là en œuvrant en sorte qu'il devienne le dernier des pays des années de suite. On peut entrer dans l'état pour dire c'est quoi exactement, c'est où exactement. Mais rien que ce résultat-là. Comment aujourd'hui on peut se retrouver derrière un pays comme le Burkina, qui ont du point de vue ressources, n'a rien. Comment on peut se retrouver aujourd'hui derrière un pays comme même le Congo voisin. Comment a-t-on fait pour se retrouver là? Comment la pauvreté a-t-elle pris de telles proportions? Et pas seulement la pauvreté, les inégalités entre la couche la plus riche, celle qui expose ce que l'on voit là en termes d'investissement immobilier, en termes de véhicules, en termes de jeunes sports, et tout le reste de la ville, je parle même pas encore du pays, de l'arrière-pays. Comment est-on arrivé à ça? Les ressources humaines manquent? Non. Les ressources matérielles manquent? Non. Qu'est-ce qui manque? C'est l'organisation de tout cela avec une vision et une gouvernance engagée.
Alors, vous qui avez travaillé dans les institutions internationales qui s'occupent du développement, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé à l'idée, par exemple, avec d'autres Congolais hein, qui ont fait le même parcours que vous, d'élaborer un plan de développement, par exemple, pour la RDC, et soumettre cela aux institutions en place, professeur?
Merci, Kelly. Ça, c'est une très bonne chose. J'étais au ministère du plan et je suis ce que je prétends être le père technique du premier plan quinquennal de développement économique et social de ce pays. Il n'y en a pas eu un autre. Le DCRP, ce n'est pas des plans. Le seul qui a existé, c'est celui qui portait sur la période 1986-1990. J'en étais le père. Officiellement, c'est le commissaire d'État au plan, Wosol Mulumbalukoji. Mais en réalité, techniquement, j'étais celui qui coordonnait. Ça a été préparé, mis au point, mais ça n'a jamais été mis en œuvre. Parce que politiquement, ça n'arrangeait pas certains, ceux qui avaient les rênes. Deuxièmement, un plan de développement, on ne le prépare pas, on le cuisine en groupe ou seul en groupe, je peux le faire, et venir dire au gouvernement, voici ce que nous pensons, et puis le gouvernement va le faire. Non. Il faut que le gouvernement lui-même dise, la nation congolaise ou l'État congolais dit, voici ce que je veux et où je veux aller. Articulez-moi ça dans un plan. En ce moment-là, oui. En lui donnant conseil, non, vous avez voulu ça, nous pensons que, etc. Mais il n'y a pas de demandeur, c'est ça que je voudrais vous dire. Tout plan doit être porté politiquement. S'il n'y a pas de porteur politique du plan de développement, vous allez le faire pourquoi? Pour que ça termine dans des tiroirs?
Et s'il n'y a pas de demandeur, vous ne pouvez pas proposer?
Non, s'il y a pas, parce que c'est un exercice maintenant inutile. Parce qu'investir dans la préparation d'un plan, c'est de l'énergie. De plusieurs personnes, des équipes qui discutent, qui renvoient, qui réarticulent, etc. Je peux le faire pour dire... Il y a un parti politique qui est porteur, une coalition politique qui est porteuse, qui se dit, si nous sommes au pouvoir, comment pensez-vous que nous puissions faire? Vous voyez, il y a un demandeur, je peux le faire, mais comme connaissant la planification dans mon pays, ayant déjà fait un plan qui est resté comme ça, je me dis, mais je vais le faire à la demande de qui? Alors, dans un pays comme celui-là, tu cuisines ton plat, tu le mets à table, il n'y a pas de mangeur. Parce que personne ne se la demande.
Alors, professeur Kankwenda, nous sommes presque à la fin de notre entretien. Aujourd'hui, avec ICREDES, quels services vous pouvez rendre au pays dans le domaine de la recherche, de l'enseignement et du développement?
Oui, un premier grand service, c'est que nous faisons des études et des recherches aussi bien opérationnelles que stratégiques. Opérationnelles, ça veut dire que nous avons une capacité à l'ICREDES de répondre à des demandes. Un ministère nous demande une étude sur je ne sais quoi, nous pouvons le faire. Mettre le savoir, la compétence au service du développement. Ça, c'est des études opérationnelles. Maintenant, les études sur le plan stratégique. De se dire, nous avons des ressources minières. Quelle est la meilleure façon de les utiliser, de les mettre en valeur en positionnant le Congo dans ce domaine-là sur le marché régional ou surtout sur le marché mondial. Donc, c'est une perspective stratégique, avec une capacité d'anticipation. Mais nous apportons aussi aux doctorants, aux jeunes étudiants, nous avons une bibliothèque, un cadre où ils peuvent s'épanouir, développer leurs connaissances et élargir leurs horizons dans la recherche.
Est-ce qu'il y a une adresse email
oui.
pour vous contacter?
Oui, nous avons une adresse email et nous avons un site web www.icredes.org ou bien secrétariat@icredes.org.
Alors merci professeur Kankwenda, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Vous avez un dernier mot à partager avec les auditeurs qui nous suivent en ce moment?
Bon, vous remerciez Kelly, votre station de m'avoir invité, mais surtout un message à mes compatriotes qu'ils croient dans l'avenir de notre pays et qu'ils s'engagent à construire le pays de demain. Tous les apports sont importants, y compris l'apport scientifique que fait l'ICREDES. Je voudrais les mobiliser, réveiller notre conscience et notre sens de responsabilité pour construire le Congo de demain, avec confiance.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Merci à Guy Manzangou qui était à la technique, au micro Kelly Nkouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Je rappelle que je recevais le professeur Kankwenda Mbaya. Il est fondateur et directeur général de l'Institut Congolais des Recherches en Développement et Études Stratégiques ICREDES. Il est professeur d'université, docteur en économie. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.